France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série d'été des grands accords internationaux. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'Organisation des Nations Unies qui vit aujourd'hui l'une des crises les plus importantes depuis sa création en 1945 sous l'impulsion de Roosevelt. À l'origine, on l'imaginait comme une SDN avec des dents, alors que la Société des Nations n'avait pu éviter la marche du monde vers la Seconde Guerre mondiale. Première organisation de sécurité collective, elle réunissait 51 États, 193 aujourd'hui, autour d'un grand objectif, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle portait des rêves qui rendraient l'avenir moins douloureux après les saignées des deux grandes guerres. Ceux d'une société mondiale capable de régler ses conflits par la négociation plutôt que par les armes, de répandre les droits de l'homme dans le monde et de prévenir l'éclosion de nouvelles crises en réduisant la pauvreté. Mais l'ONU n'a jamais réussi à être ce directoire du monde capable d'arrêter les guerres et de diminuer les inégalités, car elle n'est que ce que les États en font, et les États défendent avant tout leurs intérêts nationaux. La guerre de Poutine en Ukraine, celle de Netanyahou à Gaza pour venger les massacres du 7 octobre, n'en sont que les derniers exemples. Dès 1950, la guerre de Corée a mis en lumière le problème majeur du système onusien, celui du consensus entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Pendant la guerre froide, il était bloqué par l'incompatibilité des visions soviétiques et américaines de la paix. Et après un bref âge d'or qui a succédé à l'effondrement du communisme, il l'a été par les vétos russes, chinois ou américains. Finalement, l'ONU ne s'est jamais montrée à la hauteur des grandes crises du monde. En Irak, elle n'a pas empêché la guerre. À Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, ses casques bleus ont laissé se perpétrer des massacres. Elle n'a pas été à la hauteur au Rwanda, ni au sud du Liban. Elle n'a eu aucune influence, enfin, sur la guerre en Ukraine. Incapable de se réformer, l'ONU est devenue le lieu où s'expriment les frustrations des pays émergents qui s'estiment insuffisamment représentés. La neutralité de certaines de ces agences, comme l'UNRWA ou la CPI, est mise en question. L'entrisme de la Chine, le sabotage par la Russie et le mépris manifesté par Donald Trump vis-à-vis du multilatéralisme l'ont affaibli au point que certains évoquent désormais une déroute. Pour autant, le monde serait-il vraiment meilleur et plus sûr sans l'ONU? Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Morel.
Bonjour.
Bonjour, historienne spécialiste de l'ONU, vous êtes normalienne, agrégée d'histoire et chercheuse associée à la Sorbonne. Et vous avez publié en 2024 les grands discours à l'ONU aux éditions du Crocan. J'accueille aussi Dominique Moisy, bonjour.
Bonjour.
Conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Votre dernier livre, Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir, a été publié en 2024. Cher Robert Laffont, bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Alors, je voudrais qu'on commence par un petit rappel du contexte à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous résumer un petit peu, Chloé Morel, la naissance de l'ONU à l'époque?
Eh bien, suite à la Seconde Guerre mondiale, qui a fait 50 à 60 millions de morts, qui était vraiment une hécatombe et un traumatisme, il y avait vraiment une ambiance pacifiste, universaliste. Il y a eu l'idée de créer les Nations Unies, d'abord en 1942, avec la Déclaration des Nations Unies, faite par les Alliés. Puis, en avril 1945, s'ouvre la conférence de San Francisco avec une cinquantaine d'États alliés ou proches des alliés, et donc dans une ambiance unanimiste, universaliste, et vraiment l'espoir d'une paix, l'espoir de ne plus commettre de telles horreurs que pendant cette guerre, et puis l'espoir aussi de ne pas retomber dans l'inefficacité de la Société des Nations, qui était l'ancêtre de l'ONU pendant l'entre-deux-guerres et qui n'avait pas réussi à empêcher l'éclosion d'une nouvelle guerre mondiale.
Oui, alors cette SDN, en fait, elle avait fonctionné au début, la SDN.
Oui.
Quand est-ce que ça avait commencé à dérailler?
Eh bien, en fait, elle a commencé à fonctionner dans les années 1920. Il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites sur le plan normatif, avec des déclarations, des conventions, mais pas assez de moyens d'action, pas assez de financement et pas assez de forces contraignantes pour faire appliquer ces décisions. Puis ensuite, avec l'apparition et l'enracinement des fascismes en Europe, comme l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, fasciste. Elle s'est montrée impuissante et lorsque l'Italie fasciste a agressé l'Éthiopie au milieu des années 30, l'empereur d'Éthiopie a parlé à la tribune de la SDN pour demander à ce que la SDN arrête cette agression et la SDN n'a pas été capable de le faire. Donc ça a été un peu l'aveu d'impuissance et au tout début de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est dissoute, elle s'est autodissoute et elle est morte comme ça.
Dominique Moïsi, l'ONU, on la voulait vraiment beaucoup plus efficace que la SDN, la Société des Nations. À partir de quand c'est devenu compliqué? Est-ce que c'est, en fait, pendant la guerre froide, les affrontements des idéologies ou après?
Non, dès la guerre froide, on se rend compte que les Nations Unies, c'est les grandes puissances désunies. Je crois qu'il est intéressant de revenir sur un point par rapport à la SDN. Une des raisons de l'échec de la SDN, c'est la non-participation des États-Unis après la Première Guerre aux affaires du monde. C'est le retrait dans l'isolationnisme. C'est Woodrow Wilson qui lance cette vision généreuse, multilatérale de la paix. Mais le Congrès des États-Unis ne le suit pas et donc elle est orpheline de la puissance potentiellement clé après la Première Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on est dans un schéma complètement différent, la guerre de Raymond Aron, et là, il y a un blocage idéologique qui va s'installer et qui, quelque part, ne va jamais être dépassé, sauf, vous l'avez mentionné, pendant cette parenthèse miraculeuse où on a l'impression que le symbole de l'Empire, l'Amérique, et le symbole de la loi, les Nations Unies, peuvent s'entendre. J'ai vécu des moments de complicité extrême entre le secrétaire général des Nations Unies, qui était à l'époque Kofi Annan, et l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, qui était Richard Holbrooke. Ils avaient le sentiment, c'était la fin de la deuxième présidence Clinton, qu'ils allaient, eux, changer le monde et changer l'esprit des Nations Unies. Ça ne s'est pas fait.
Alors, on va juste écouter un son. On va écouter le président américain Truman, justement pendant la conférence de San Francisco, qui crée l'ONU en 1945. C'est une archive du gouvernement français.
Monsieur Stettinius va ouvrir les débats et il le fait en frappant sur la tribune les trois coups rituels du lever de rideau.
The Conference of the United Nations on International Organization is now convened.
Puis il passe la parole au président Truman qui de Washington s'adresse par radio aux membres de la conférence. Le monde, dit le président des États-Unis sans renaître sa foi dans la force morale du principe de justice. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix.
We must learn to live together in peace.
Puis les chefs des délégations des grandes puissances viennent l'un après l'autre s'associer aux espoirs du président des États-Unis, M. Molotov, chef de la délégation soviétique. M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, apporte l'adhésion du Royaume-Uni et la France s'associe à ces paroles d'espoir par la voix de M. Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères.
Alors, le président américain Truman dit à l'époque son espoir d'un monde meilleur basé sur la justice et la paix. On est loin du compte, Chloé Morel. Quel est le problème fondamental de l'ONU, à part le fait que les États-Unis ne se sont pas investis dans ce projet dès le départ? Est-ce que c'est parce que l'ONU n'a pas la force d'imposer quoi que ce soit? Parce que les intérêts des États passent avant l'intérêt collectif? Comment on peut qualifier en fait les premiers dérapages, enfin les piétinements permanents de l'ONU?
Il y a plusieurs problèmes. Il y a un manque de force contraignante pour faire appliquer ces grands textes normatifs comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puisque comme son nom l'indique, ce n'est qu'une déclaration, donc elle n'a pas de force contraignante. Donc tous les grands principes humanistes qui sont affirmés ne peuvent pas s'appliquer avec force. Et puis aussi, elle a un manque de budget. Elle a un budget d'environ 5 milliards de dollars par an, ce qui est vraiment très peu. Et puis, enfin, il y a des tensions, comme vous l'avez dit, de la guerre froide qui démarre juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc qui paralyse l'ONU. Et donc, le droit de veto qui est employé par un des cinq grands, Donc ça paralyse l'ONU. Il a été employé près de 270 fois depuis la création de l'ONU. Donc ça a à plusieurs reprises empêché l'ONU d'agir dans des guerres, justement pour envoyer les casques bleus dans les grands conflits contemporains. On voit qu'on manque d'actions concrètes de l'ONU pour agir efficacement pour le maintien de la paix.
Dominique Moïsi, l'ONU normalement devait avoir les dents qu'il manquait à la SDN. Pourquoi n'a-t-elle pas trouvé ses dents? Pourquoi n'a-t-elle jamais réussi en fait à se doter de la force qui aurait pu permettre d'appliquer ces grands principes?
Si on veut aller à l'essentiel, parce que les grandes puissances ont souhaité garder l'usage de la force, le monopole de la violence légitime, les cinq grands du Conseil de sécurité se le sont attribués. Et puis, au-delà du droit de veto, il y a la légitimité, la représentativité du Conseil de sécurité qui a diminué avec le temps.
Ça, on en parlera dans la deuxième partie.
Mais c'est un point central pour comprendre l'échec de l'ONU. Donc, l'essentiel, c'est la force ne se partage pas. Je ne vais pas la donner à quelqu'un d'autre.
Et si on parle des opérations de maintien de la paix, dont le bilan, finalement, assez... j'allais dire médiocre, mais en fait contesté. C'est vrai que ça n'a pas marché en Bosnie. Il a fallu attendre que les Américains mettent fin à la guerre avec l'OTAN. Ça n'a pas marché au Liban. À chaque fois qu'il y a une opération de maintien de la paix de l'ONU, le résultat n'est pas à la hauteur. Comment vous expliquez en fait?
Alors il y a des exceptions quand même. À l'ONU, on est légitimement fier de la réussite de l'opération au Timor oriental. L'ONU a fait la différence. Ça montre que quand la communauté internationale ne s'intéresse pas à une question parce qu'elle paraît trop marginale et qu'elle laisse l'ONU agir, ça peut fonctionner. Et donc je crois que donner un bilan universellement négatif est une erreur, ne correspond pas à la réalité historique. Il y a des exceptions, mais c'est vrai qu'elles sont trop... marginal dans l'histoire.
Je vais vous donner la parole, Chloé Morel, mais il me semble que, quand même, au Timor, si ça a marché, c'est parce qu'en fait, la paix avait été voulue par les deux parties. Et que l'ONU arrive dans un moment où la paix est instaurée, puisque c'était Suharto à l'époque.
Oui, mais quand même, là je parle sous le contrôle de Chloé Morel, qui est beaucoup plus spécialiste de l'ONU que je peux l'être, je pense que l'ONU a joué un rôle significatif. Ça n'aurait pas été la même chose sans elle.
Chloé Morel, oui, donc, sur ces opérations de maintien de la paix.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a eu plus de 70 opérations de maintien de la paix depuis le début. Et parmi elles, il y a des succès, ou en tout cas des situations où ça aurait été pire s'il n'y avait pas eu les casques bleus. Par exemple, en Afrique, en Centrafrique ou d'autres pays d'Afrique subsaharienne, les casques bleus jouent un rôle parfois d'aide humanitaire ou d'assistance aux personnes déplacées ou de s'interposer pour éviter des massacres. Donc, il y a une action quand même qui peut être positive, même s'il y a des échecs, comme vous l'avez souligné.
Alors, je voudrais qu'on rentre un petit peu maintenant dans le détail des grands pays et des grands dossiers. On va rentrer d'ailleurs dans le Conseil de sécurité auprès de ses 5 membres permanents. Chloé Morel, à quoi sert l'ONU pour la Russie? Parce qu'on sait bien que, en fait, les grands pays du Conseil de sécurité, par leur veto, par les propositions de résolution, etc., ont un rôle de leader et utilisent parfois le Conseil de sécurité pour servir leurs propres intérêts. C'est le cas notamment de la Russie, de la Chine et peut-être aussi des États-Unis, on va y venir. À quoi sert en fait l'ONU et le Conseil de sécurité pour la Russie?
Bien, pour la Russie, c'est un grand élément de prestige et de pouvoir d'avoir ce veto, ce siège permanent au Conseil de sécurité, comme les 4 autres pays qui ont ce privilège. Et ça lui sert à bloquer des résolutions, à s'affirmer, à nouer des alliances aussi dans l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité avec d'autres États, comme des États africains. Et ça lui sert d'affirmation de sa politique. Et malheureusement, la Russie fait partie des pays qui ont le plus bloqué les décisions de l'ONU ces dernières années. Depuis le début des années 2000, depuis que Poutine est au pouvoir comme président, la Russie a beaucoup bloqué et paralysé l'ONU par son veto.
Uniquement sur l'affaire ukrainienne ou aussi sur d'autres dossiers,
sujets, hein, oui,
par
aussi.
Exemple
pour l'Afrique, parce que la Russie mène une politique d'influence très importante en Afrique, par exemple.
Dominique Moïsi, la Russie au Conseil de sécurité, quel est son rôle?
Le mauvais élève. le plus mauvais élève de la classe des grandes puissances. En fait, si on revient sur toute cette période, le bilan de l'ONU n'a pas été aussi catastrophique que celui de la SDN, mais pour une raison qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à présent, qui est la dissuasion nucléaire. Ce qui a empêché le retour de la guerre jusqu'en 2022, ça a été cet équilibre de la terreur qui n'existait pas, pour des raisons évidentes, au temps de la SDN. Et donc la Russie, qui était jusqu'en 1991 l'URSS, bloquait les décisions qui n'allaient pas dans son sens, mais le faisait à partir d'un certain moment sans trop de crainte. De toute façon, nous avons la bombe, il ne va rien se passer.
Et aujourd'hui, comment la Russie utilise-t-elle le Conseil de sécurité pour servir ses propres intérêts ?
Avec beaucoup plus de brutalité, avec beaucoup plus de cynisme, parce qu'on est passé dans une phase différente qui tient au fait que la Russie de Poutine méprise en réalité 3 des 5 membres du Conseil de sécurité, qu'il s'agisse des États-Unis, de la France ou de la Grande-Bretagne, qui appartiennent à ses yeux au monde d'hier, obsolescent, inefficace, qui va bientôt laisser la place aux grandes puissances autoritaires qui vont imposer leur modèle. Donc je crois que le mot qui viendrait spontanément à mon esprit pour déterminer le comportement de la Russie à l'égard des Nations Unies, c'est celui de mépris.
Chloé Morel, est-ce qu'on peut faire la même analyse en fait avec la Chine ? À la fois, je voudrais que vous parliez du veto, et j'aimerais aussi que vous nous expliquiez la manière dont la Chine, qui est à la tête de 15 agences spécialisées de l'ONU, et qui en plus en dirige, je crois, à peu près 7 autres, qui est le deuxième contributeur au budget de l'ONU, qui augmente son emprise sur les États africains, à quoi lui sert l'ONU aujourd'hui ?
Alors pour la Chine, l'ONU et les autres agences comme par exemple l'UNESCO, c'est vraiment un moyen de soft power, c'est un moyen de faire passer ses idées, faire passer ses valeurs, faire parler d'elle et mettre, comme vous l'avez dit, des personnalités chinoises à la tête des agences onusiennes ou dans des positions très importantes, des positions stratégiques. Par exemple, dans les années 2000, quand la chinoise Margaret Chan était à la tête de l'OMS, ou aujourd'hui, quand la Chine est quasiment le plus gros contributeur ou le deuxième à l'UNESCO. Cela lui permet de valoriser la politique chinoise, de faire classer des sites chinois en très grand nombre sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et bien sûr au Conseil de sécurité de s'affirmer, d'affirmer sa puissance et c'est un des moyens importants pour rallier aussi d'autres États à ses vues et s'affirmer sur la scène internationale. Alors la Chine, depuis les années, la déclaration de la République populaire de Chine, elle s'affirme comme le leader des pays du Sud. Elle se met à la tête du G77, le groupe des 77, aujourd'hui il y en a 130, pays du Sud global. Et donc elle se présente comme un leader de ces pays-là. Et c'est sa manière de s'affirmer et de chercher des alliés sur la scène internationale et à l'ONU.
Dominique Moisy, la Chine à l'ONU, qu'est-ce que c'est ? Pour elle, c'est un moyen de pousser la puissance chinoise ? C'est un moyen d'essayer de doubler, enfin de contourner, enfin d'imposer le système chinois, qui est aussi en partie celui de la Russie, à la place du système international occidental. Comment utilise-t-elle en fait l'ONU et ses agences ? À quelle fin ?
Je dirais que la stratégie de la Chine est à certains égards l'inverse absolu de celui de la Russie. Elle se comporte, si j'ose dire, comme la fille aînée de l'Église. La France tirait prestige dans le temps de ce statut qu'elle s'était attribué. Eh bien, la Chine se présente aujourd'hui au monde comme la fille aînée de l'ONU. Et c'est une manière pour elle, vous l'avez très bien dit, de dire aux pays du Sud, enfin à l'ensemble de la communauté non occidentale, il y a une grande puissance qui pense à vous, qui justement n'a pas de mépris à l'égard de ce que vous êtes et qui met les moyens, met l'argent. Au fond, les opérations de l'ONU sont largement assumées par la Chine. Donc c'est l'inverse. Je dirais, au mépris russe s'oppose l'entrisme chinois.
sachant que la Russie s'est souvent cachée derrière le veto russe pour en fait pousser une politique qui était similaire à celle de Moscou. Donc il y a aussi un jeu entre les vétos. La Chine, oui.
Oui.
Alors, certains accusent le Conseil de sécurité de l'ONU et l'ONU d'être devenue en fait une enceinte où les autocrates peuvent imposer leur agenda et leur façon de vivre. Est-ce que c'est aussi caricatural que ça? Est-ce que finalement l'ONU, c'est pas seulement devenu en fait surtout l'enceinte des pays du Sud?
Oui, alors c'est vrai que parmi les 5 pays qui ont le droit de veto et le siège permanent au Conseil de sécurité, il y en a au moins 2 qui sont des dictatures, en tout cas des régimes autoritaires comme la Russie et la Chine. Et sinon, pour les pays du Sud, c'est depuis 1960, en fait, avec la décolonisation de l'Afrique subsaharienne, il y a eu 17 pays africains nouvellement indépendants qui sont entrés tout d'un coup dans l'ONU. Donc ça a complètement métamorphosé la configuration de l'ONU.
C'est là que le rapport de force change.
C'est ça, parce qu'à l'Assemblée générale, du coup, où un État égale une voix, qu'il soit riche ou pauvre, un État égale une voix, il y a une majorité désormais de pays du Sud global, à l'Assemblée générale. Mais ce qui n'est pas forcément le cas au Conseil de sécurité, puisqu'il n'y en a que 15. Donc aujourd'hui, les pays d'Afrique et aussi d'Asie, d'Amérique latine, cherchent à s'organiser entre eux pour peser sur l'ONU, parce que beaucoup des actions d'aide humanitaire, d'aide au développement de l'ONU sont faites en direction des pays du Sud, justement. Et là, le fait d'avoir coupé pour les États-Unis des budgets, c'est très douloureux pour les actions en faveur des pays du Sud qui ont un budget coupé actuellement.
Et à partir de quel moment les pays émergents disent leur frustration contre les pays occidentaux à l'ONU? C'est juste après la décolonisation?
Un peu après, oui, en 1973-74, ils lancent un grand mot d'ordre, c'est le Nouvel Ordre Économique International, le NOEI. Tous ces pays du Sud, aidés et soutenus par la Chine par exemple, revendiquent un Nouvel Ordre Économique International, ça veut dire un ordre Nord-Sud, un rapport Nord-Sud plus juste, où on arrête de faire en sorte que c'est les pays du Sud qui vendent des matières premières à prix très bas aux pays du Nord, qui ensuite les transforment, produisent des produits manufacturés, qui revendent aux pays du Sud avec une grande marge de bénéfices. Ça, c'est un ordre injuste pour eux, un échange inégal, et donc ils réclament un nouvel ordre économique international et aussi un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication par le biais de l'UNESCO, c'est-à-dire que la production d'informations, la production de dépêches de presse, etc. doit venir aussi des pays du Sud et doit pas être complètement concentrée aux mains des pays occidentaux. Donc c'est deux grands mots d'ordre des pays du Sud qui apparaissent dans les années 70 et 80.
Dominique Moisy, sur l'émergence en fait des revendications des pays du Sud.
Alors, elles vont être reprises d'ailleurs par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui va évoquer un nouvel ordre mondial à la fin de sa présidence. Un des problèmes majeurs des pays du Sud, c'est le fait qu'ils ne sont pas représentés au Conseil de sécurité comme membres permanents. Ils peuvent y être parmi les 10 membres qui se succèdent temporairement pendant 2 ans. Mais ce qui ferait la différence, c'est la représentation comme membre permanent. Et là, les 5 membres ne sont pas enthousiastes à l'idée de partager. Et les pays du Sud eux-mêmes ont du mal à s'entendre sur l'identité de tel ou tel pays qui va les représenter. Alors, c'est intéressant. Passons en revue très rapidement les continents. En Afrique, le continent africain ne s'est pas mis d'accord. Est-ce que ce sera le pays le plus peuplé, le Nigeria? Est-ce que ce sera le pays qui a l'histoire la plus longue, l'Égypte? Est-ce que ce sera le pays qui a l'histoire la plus remarquable au cours des dernières années, l'Afrique du Sud? Un désaccord complet. En Asie, l'Inde serait plus que légitime comme membre du Conseil de sécurité. Il est évident que la Chine n'est pas enthousiaste à l'idée de la voir entrer le Conseil de sécurité. Le Japon, pendant très longtemps, a été une des toutes premières puissances économiques mondiales. La Chine ne voulait pas non plus du Japon. Donc vous multipliez ces histoires et vous vous rendez compte que le droit de veto des 5 membres bloque la relégitimisation de ce Conseil de sécurité. J'ai des souvenirs d'ambassadeurs de France qui me disaient « Je suis pour l'élargissement du Conseil de sécurité parce que je sais qu'il ne se réalisera jamais. »
Dites un mot quand même du problème européen aussi, Dominique Moisy. On a 2 pays européens sur les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Oui. Est-ce que c'est encore logique aujourd'hui?
Alors, il y a ce ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing, Jean-François Poncet, qui, à la fin des années 70, disait très sincèrement « La France et la Grande-Bretagne doivent abandonner leur siège aux Nations Unies pour créer un siège européen. Ça évitera le problème de l'Allemagne, ça évitera le problème de l'Italie. Il y aura un siège pour l'Europe. » Bien entendu, cette proposition a été immédiatement enterrée en France, en Grande-Bretagne aussi. Mais aujourd'hui, vous avez des pays qui étaient hier candidats. En fait, les vaincus de 45, l'Allemagne et l'Italie, oui, étaient tout à fait candidates et le disaient régulièrement au Conseil de sécurité comme membre permanent de l'ONU. Ça paraît très loin, cela, parce que aujourd'hui, compte tenu de la crise morale, identitaire, de l'image, je ne suis pas sûr que dans le débat allemand ou dans le débat italien, il y ait encore l'idée « nous aussi, nous voulons notre siège ».
Chloé Morel, pourquoi on n'a pas été capable de réformer l'ONU et notamment son Conseil de sécurité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme réforme?
Il y a eu beaucoup de projets de réforme depuis les années 80-90 avec le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, puis dans les années 2000 avec les efforts de Kofi Annan pour réformer l'ONU. Donc beaucoup d'idées ont été avancées, comme par exemple l'idée d'être plus efficace dans les opérations de maintien de la paix avec l'idée de la responsabilité de protéger, c'est-à-dire faire aboutir l'idée que si un pays est incapable de protéger sa population de violences et de massacres, il revient à la communauté internationale, donc à l'ONU, de le faire. Donc c'est pour légitimer l'action de l'ONU de maintien de la paix. Il y a eu des efforts de rationalisation du fonctionnement administratif pour éviter les lourdeurs, les lenteurs administratives. Et puis il y a eu des idées depuis les années 2000-2010 de supprimer ou d'encadrer le droit de veto. Et là, la France a joué un rôle important avec le président Hollande qui a proposé en 2013 que l'on renonce collectivement au veto dans les cas où on traite de situations, par exemple comme l'Ukraine aujourd'hui, où il y a des destruction, des tueries en cours, comme en Ukraine ou à Gaza. Donc c'est l'idée que collectivement, on renonce à utiliser le droit de veto. Donc il y a ces idées qui ont été portées, mais malheureusement, peu de choses ont abouti dans les faits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des secrétaires généraux vraiment importants depuis les années 80-90, comme donc je disais, deux Africains, en fait, Boutros Boutros-Ghali, puis Kofi Annan, le Ghanéen Kofi Annan, qui a été important dans la manière de médiatiser l'ONU, de médiatiser l'action de l'ONU, parce qu'elle souffre souvent d'un déficit médiatique.
Je voudrais qu'on passe par les États-Unis et qu'on évoque Donald Trump, son retrait de l'accord de Paris, son retrait de l'UNESCO, du Conseil des droits de l'homme. Est-ce que toutes les actions de Donald Trump risquent de porter un coup fatal à l'ONU, Dominique Moisy?
Alors, c'est le mot « coup fatal » qui est problématique. Il y a eu déjà de nombreuses attaques contre les Nations Unies.
Combien... Et aucune n'a été fatale.
Et aucune n'a été fatale. Donc combien de temps Donald Trump restera aux affaires, en capacité? Je veux dire, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une parenthèse dans l'histoire des États-Unis, ou est-ce que c'est la traduction d'une tendance lourde? Il est évident qu'il y a une opposition absolue entre les idées de Donald Trump et les idées que portaient hier Roosevelt et Truman, que nous avons entendu. Il y avait, dans la dimension américaine, dans l'approche de l'ONU, une dimension profondément religieuse qui explique en réalité le ralliement de l'Amérique à ce projet. La création de l'État d'Israël en 1948, si vous écoutez le discours du président américain à l'époque, Truman, c'est une lecture biblique. C'est une lecture profondément religieuse que l'on va retrouver chez Jimmy Carter quand la paix arrive entre l'Égypte et Israël. Et là, avec Donald Trump, on est dans une dimension inverse. Il peut se présenter comme le pape grâce à l'intelligence artificielle, mais il est totalement dénué de toute dimension de spiritualité.
Chloé Morel, quand les États-Unis se mettent à voter avec la Russie, avec le Mali, avec la Corée du Nord, contre l'Ukraine, comme ils l'ont fait en février et en avril de cette année, est-ce que ça ne signifie pas une rupture ?
Oui, tout à fait. Ben, la politique des États-Unis à l'ONU est très problématique, là, sous Donald Trump. Mais en fait, c'est déjà depuis les années 80, avec la présidence de Reagan, qu'il y avait eu une attitude des États-Unis face à l'ONU, à l'UNESCO, aux autres agences, une attitude de retrait, d'unilatéralisme. Déjà sous Reagan, en 84, les États-Unis s'étaient retirés de l'UNESCO. Puis aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec Donald Trump, les États-Unis se sont retirés de beaucoup d'accords, comme l'accord de Paris sur le climat. Ils se sont aussi retirés de l'OMS, ce qui est très grave. Et aussi, les États-Unis depuis plusieurs décennies, n'ont pas ratifié beaucoup d'accords importants de l'ONU, comme la Convention des droits de l'enfant ou la Déclaration sur les droits des travailleurs migrants. Ils ne veulent pas se joindre aux actions et aux textes normatifs de l'ONU. Et ça, c'est vraiment très dommage. Comme déjà dans les années 90, ils n'avaient pas ratifié le protocole de Kyoto. Donc on voit que la politique des États-Unis à l'ONU est très problématique en ce moment. Et du coup, ça enlève de la force à l'ONU pour ses actions.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Alors finalement, quand même, de plus en plus, on voit que c'est plus vraiment à l'ONU que se passent les choses, quoi, en termes de décision. C'est plutôt au G7, au G20, et aussi dans les structures ad hoc qui sont faites pour contourner l'ONU. Je me souviens par exemple des négociations organisées par la Russie à Manama, au Bahreïn, pour créer des zones de désescalade en Syrie en 2017. Donc il y avait un contournement par la Russie de l'ONU, en fait.
Ça dépend. Là encore, j'aimerais nuancer votre propos, parce que ça dépend des domaines. Il y a un domaine où l'ONU s'est montré incontournable et a joué un rôle central quand même, c'est l'OMS. Au moment de l'épidémie de Covid, elle avait gardé une forme de légitimité. Au moment où le président des États-Unis, Donald Trump, s'enfermait dans des propos absurdes, eh bien, quand même, la rationalité portée par l'OMS a joué un rôle. C'est là où, je crois, il est important de maintenir quand même le rôle de l'ONU. Sa fonction tribunicienne est, avec le temps, devenue beaucoup moins importante qu'elle ne pouvait l'être. Mais encore une fois, elle n'existerait pas, en dépit de tout ce que l'on vient de dire, le monde serait pire. Et c'est là où je crois qu'il est important pour nous de dire que, à la marge, il est essentiel que nous sauvions l'ONU de tous ceux qui veulent l'enterrer, qu'il s'agisse de la Russie par le mépris et le droit de veto, ou l'Amérique par l'incohérence. Parce que vous citiez le vote de Trump contre l'Ukraine. Mais aujourd'hui, il semble être revenu sur ses propos et est en train de pousser quand même Poutine à accepter un cessez-le-feu. Donc les votes des États-Unis aux Nations Unies à l'heure de Trump 2 reflète les incohérences et les contradictions de la politique américaine.
Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Dominique Moisy. La fonction tribunicienne de l'ONU est très importante. Par exemple, à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, c'est là que les représentants des États membres du monde entier se rencontrent, échangent, soit pendant la séance, soit dans les couloirs avant ou après les séances. C'est une manière pour les États de dialoguer. Donc ce forum de dialogue est important. Mais je suis aussi d'accord avec ce que vous disiez, qu'il y a une marginalisation de l'ONU aujourd'hui au profit d'autres forums comme le G7, le G20, le Forum économique mondial de Davos ou d'autres structures qui court-circuitent un peu l'ONU, qui a pourtant elle-même plus de légitimité parce qu'elle a 193 États membres, elle rassemble quasiment tous les pays du monde.
Oui, mais même d'ailleurs à l'Assemblée générale de l'ONU, on voit que, bon, par exemple, je crois que cette année, Emmanuel Macron n'y est pas allé, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai quand même le souvenir d'Assemblée générale de l'ONU où finalement les choses les plus importantes qu'il s'y passait n'étaient pas dans l'enceinte à l'Assemblée générale, mais étaient dans les relations bilatérales, en dehors de l'enceinte des Nations Unies.
C'est vrai.
Donc ça, c'est une transformation, en fait.
Oui. L'ONU est un espace où peuvent se nouer des relations bilatérales ou à trois États, quatre États, c'est vrai. Donc c'est important de préserver cet espace de dialogue qui permet parfois de dénouer des situations de tension entre des États membres par le dialogue, justement.
Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans la cuisine interne de l'ONU? Notamment, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des pressions politiques? Comment est effectué le choix du secrétaire général? Est-ce qu'il est contraint, par exemple?
C'est très politique. Les pays peuvent proposer des candidats. Après, le candidat doit se présenter devant l'Assemblée générale. Et depuis peu, depuis que c'est Antonio Guterres qui est le secrétaire général, ils ont mis en place à l'ONU un système un peu plus transparent avec une audition du secrétaire général devant les membres de l'Assemblée générale et avec des réponses à des questions pour se présenter. Mais là, il y a beaucoup d'actions de pression des grands États pour le choix du secrétaire général, bien sûr, et c'est la même chose pour les postes de directeurs généraux des 16 agences spécialisées de l'ONU, comme donc l'UNESCO, l'OMS, l'OIT, vraiment. Et actuellement, la Chine pousse beaucoup pour avoir des personnalités chinoises à la tête de ces agences, et elle donne du financement. Elle n'est pas avare de financement, et ça, ce financement, ça peut l'aider à pousser ses pions au sein de l'ONU.
Est-ce que c'est pas un travers, ça, de l'ONU, Dominique Moïsier? D'ailleurs, serait-il possible de faire autrement à partir du moment où on voit la composition du Conseil de sécurité? Parce que les pressions politiques pour le choix du secrétaire général, mais il y a aussi des pressions politiques pour ne pas publier un rapport ou l'édulcorer. Enfin, je pense par exemple au rapport qui avait été fait sur les Ouïghours en 2022, qui avait été édulcoré. Vous parliez vous-même de l'OMS et du travail remarquable qu'elle avait effectué à l'époque du Covid, mais on a aussi reproché à l'OMS de ne pas avoir tenu ses promesses, d'aller jusqu'au bout de l'enquête sur l'origine. Voilà, donc.
En fait, douteux privilège de l'âge, j'ai bien connu un secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Il m'avait demandé de faire partie d'un comité tout à fait informel qui s'appelait Wise Men Committee. Et donc nous nous réunissions dans une résidence Rockefeller, pas loin de New York, sur l'Hudson River. Et je voyais comment ça fonctionnait. Mais là, vous aviez un secrétaire général qui partait de l'idée qu'il devait se médiatiser. Que face à la crise de l'ONU, l'important était que la personne du secrétaire général devienne centrale et qu'ainsi il puisse influer. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que on a, je crois, un très bon secrétaire général des Nations Unies en la personne d'Antonio Guterres, mais ses moyens d'action sont infiniment plus faibles que ne pouvaient l'être ceux de Kofi Annan il y a une vingtaine d'années.
Donc, pourquoi ?
Alors, c'est parce que la crise de l'ONU s'est aggravée, parce que l'incapacité d'agir avec la montée de la violence. Enfin, vous avez vu, comme moi, une explosion de violence dans le sous-continent indien entre l'Inde et le Pakistan. À aucun moment,
on a. C'était au mois de mai dernier.
Oui, au mois de mai dernier, on a vu que l'ONU était littéralement absente. C'était vraiment, il y avait un silence retentissant de l'ONU. Et l'histoire dira si le vacarme fait par les États-Unis a été à l'origine du cessez-le-feu ou pas. Mais les conditions d'action du secrétaire général sont infiniment plus difficiles en 2025 qu'elles ne pouvaient l'être au temps de Kofi Annan. Donc, à quoi sert d'avoir une personnalité forte, qui a une vision claire, qui sait ce qui doit être fait, si, dans la réalité des choses, il ne se passe rien ou si peu?
D'accord, mais alors vous considérez qu'Antonio Guterres est un bon secrétaire général à qui il manque en fait l'influence et tout. Mais alors, comment vous expliquez pour moi cette maladresse? Et quand je dis maladresse, c'est au minimum du secrétaire général quand il se rend au sommet des BRICS à Kazan en Russie et qu'il contribue à la réhabilitation diplomatique de Vladimir Poutine et qu'il s'affiche avec des gestes de sympathie, enfin en tout cas de proximité physique vis-à-vis du dictateur biélorusse Loukachenko. Est-ce que c'est un bon secrétaire général?
Oui, en dépit de cela. Mais là, je crois qu'il faut se mettre à sa place, si j'ose dire. Et se mettre à sa place, cela signifie voir qu'il se considère aussi, compte tenu de la composition des Nations Unies comme devant traduire la sensibilité des pays du Sud global. On lui reproche, l'autre dossier, ses déclarations sur ce qui se passe à Gaza. Mais aujourd'hui, avec le recul du temps, il est difficile, me semble-t-il, de ne pas le soutenir. Il y a une forme de suicide moral dans lequel Israël est en train de s'engager à Gaza. Et donc, est-ce que c'est vraiment le secrétaire général qui est responsable ou est-ce que... alors, les deux cas sont complètement différents. On ne peut pas comparer son comportement à l'égard de la Russie et le comportement de la Cour pénale internationale à l'égard de Gaza. Mais au bout du compte, il a une tâche impossible. Il doit essayer de représenter un monde profondément divisé émotionnellement, qu'il s'agisse de Gaza ou qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine.
Chloé Morel, là-dessus.
Oui, c'est vrai qu'Antonio Guterres, c'est un secrétaire général très expérimenté. Il faut rappeler que, avant de devenir secrétaire général de l'ONU, il a de longues années travaillé dans les instances onusiennes. Il a été pendant 10 ans à la tête du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Mais à côté de ça, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, lorsqu'on l'entend dans les médias, on voit que souvent le secrétaire général déplore tel ou tel massacre, telle ou telle agression d'un pays sur un autre. Et en fait, on a l'impression qu'il est impuissant. En fait, il déplore des massacres, il appelle des peuples à faire la paix, etc. Mais on sent quand même une impuissance à vraiment agir de manière plus concrète, à envoyer des casques bleus, à envoyer des missions, à mettre en place des plans, des programmes spéciaux. Donc il y a un manque d'action, peut-être lié au manque de budget, parce que le budget de l'ONU depuis quelques années est en stagnation, voire en baisse.
Donc c'est pas un manque de volonté du secrétaire général ?
Non.
D'accord. Alors je voudrais quand même, moi je me fais un peu l'avocat du diable, alors j'aimerais quand même aussi qu'on commente, il y a quand même des décisions à l'ONU qui sont un peu bizarres. La plus récente, je cite la minute de silence... qui avait été imposé à la mort accidentelle de l'ancien président iranien Raisi, donc qui était surnommé le boucher de Téhéran. On peut citer aussi l'accueil de la Chine dans le Conseil des droits de l'homme. Enfin, il y a régulièrement, en fait, à l'ONU, enfin, la politique un petit peu ambiguë vis-à-vis des femmes en Afghanistan, avec des réunions organisées par les talibans où les membres de l'ONU se sont laissés imposer des impératifs par les talibans en disant on mentionne pas les femmes. Qu'est-ce que ça dit ?
Ben en fait, ça dit que la moitié des États membres de l'ONU, c'est des régimes autoritaires ou en tout cas pas démocratiques. Donc l'ONU est bien obligée de faire avec eux, en fait. On ne peut pas les exclure. Le choix de l'ONU, c'est d'inclure tout le monde ou quasiment tout le monde, puisqu'il y a 193 États membres et quasiment presque la moitié d'entre eux sont des régimes, d'une manière ou d'une autre, qui sont autoritaires, qui ne respectent pas totalement la démocratie. Donc elle est obligée de faire avec eux et parfois ça l'amène, comme vous avez dit, à faire des actions qui apparaissent comme légitimées d'une manière ou d'une autre certains États qui ne sont pas démocratiques. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'actions de l'ONU qui sont très progressistes, des déclarations, des conventions, comme la déclaration de 2007 sur les droits des peuples autochtones ou la déclaration de 1990 sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Donc il y a beaucoup d'actions très progressistes dans un sens, même si elles ne sont pas vraiment respectées par les États membres, c'est mitigé.
Alors quand même, je voudrais vous pousser un petit peu là-dessus, dans la mesure où il y a plus de pays... autoritaire dans le monde que de démocratie et que leur nombre ne cesse d'augmenter, dans la mesure où une grande majorité des pays du Sud se sont considérablement éloignés de la charte des Nations Unies. Si on prend cette logique, en fait, l'ONU risque de glisser vers une enceinte qui représentera davantage, enfin, en termes de position, les pays autoritaires, et de s'éloigner complètement de ces principes du début, Chloé Morel.
Oui, alors heureusement, il y a la charte de l'ONU qui a été votée en juin 1945, qui avait été votée à l'unanimité d'ailleurs à cette époque-là, parce que à cette époque-là, il y avait vraiment un esprit progressiste, et elle dit des principes importants, et quand même, les États membres de l'ONU sont censés adhérer à cette charte, puisqu'ils l'ont votée à l'unanimité, et donc il y a des principes importants comme l'égalité homme-femme, etc., qui sont inscrits dans cette charte, et dans d'autres textes qui ont été adoptés au fil du temps de l'ONU, comme la Convention sur le crime de génocide qui a été adoptée en 1948 et d'autres encore. Donc les États sont quand même censés respecter ces textes-là.
Dominique Moïsi.
Je dirais deux choses. La première, je crois que vous avez été même trop généreuse par rapport aux démocraties. Au jour d'aujourd'hui, à l'ONU, il y a peut-être un tiers de pays démocratiques sur les 193 qui existent. Donc un tiers, c'est quand même pas beaucoup. Alors je crois qu'il faut intégrer cette réalité et garder raison. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment particulièrement difficile de l'évolution du système international. Avec des pays démocratiques, un peu démoralisés pour certains, un peu attaqués de l'intérieur par ce qu'on appelle les tentations de démocratie illibérale de l'autre, je crois qu'il est essentiel de garder présent à l'idée que le monde serait pire sans l'ONU. Et donc, l'ONU peut nous frustrer, l'ONU peut nous indigner, nous irriter, mais gardons présent cette réalité à l'esprit. Ce serait pire sans les Nations Unies. Donc nous sommes dans une période où on doit en quelque sorte faire le dos rond, tenir, maintenir nos valeurs, nos principes dans un monde où nos valeurs ne sont plus consensuelles, mais nous considérons, nous, qu'elles demeurent universelles. Et c'est à partir de cette réalité que nous devons continuer, frustrés comme nous pouvons l'être, à nous battre pour les Nations Unies.
Alors, on va écouter un son, on va écouter la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. C'était le 1er juillet 2022, dans un discours prononcé au think tank Chatham House. Pour conjurer l'impuissance de l'ONU en Ukraine, elle appelle à réformer l'organisation.
The war in Ukraine has thrown much into disarray, our sense of territorial sovereignty.
La guerre en Ukraine a jeté une grande confusion sur notre sens de la paix et de la stabilité, le maintien d'un ordre fondé sur des règles, le principe de la souveraineté internationale.
And that is why it is a conflict that impacts deeply on Europe, but also on all of us.
Et c'est pourquoi c'est un conflit qui a un impact profond sur l'Europe, mais aussi sur nous tous.
Now was a time when we needed the United Nations to be able to move swiftly in condemnation of what was a blatant disregard for established international principles, but it could not.
Nous avions besoin que les Nations Unies puissent condamner rapidement ce qui était un mépris flagrant des principes internationaux établis, mais elles n'ont pas pu le faire.
Some may ask though what a war in Europe has to do with a small Pacific nation. The answer is everything.
Certains peuvent se demander ce qu'une guerre en Europe a à voir avec une petite nation du Pacifique. La réponse est tout.
It is a direct affront to us all, which is why, autonomous sanctions regime or not, we must continue to seek reform of the United Nations to ensure it maintains its ability to move, react and respond swiftly to issues of such global magnitude and importance.
C'est un affront direct à nous tous. Et c'est pourquoi, régime de sanctions autonome ou non, nous devons continuer à chercher à réformer les Nations Unies afin de garantir qu'elles conservent leur capacité à agir, à réagir et à répondre rapidement à des questions d'une telle ampleur et d'une telle importance mondiale.
Alors Chloé Morel, dans un monde, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, où le retour de la force et de la guerre est si fort, en fait, si important, est-ce que la paix proposée par le droit, qui était en fait la promesse de l'ONU au début, est encore d'actualité aujourd'hui?
Oh ben oui, c'est très important de revenir à cet idéal qui a fondé l'ONU, l'idéal de négociation collective, de multilatéralisme, c'est-à-dire de réunir toutes les parties prenantes, tous les États autour d'une table et de dialoguer, de négocier. Donc c'est très important ce cadre onusien qu'il a été créé en 1945 et il faudrait retrouver cet esprit vraiment unanimiste et pacifiste, universaliste de la création de l'ONU en 1945 pour aujourd'hui où on est au cœur de conflits vraiment majeurs un peu partout dans le monde, en Ukraine, à Gaza, mais aussi au Soudan, au Yémen ou ailleurs. Il faudrait retrouver ce multilatéralisme pour faire dialoguer les représentants des États membres au sein de l'ONU pour régler ces conflits.
Comment fait-on pour retrouver ce multilatéralisme ?
Eh bien, il faut que l'ONU, comment dire, ça c'est vraiment, c'est compliqué, c'est le rôle des politiques, en fait, des États, comme le fait Jacinda Ardern dans l'extrait que vous avez montré. Elle appelle l'ONU à le faire. Donc, il faut qu'il y ait une poussée des peuples pour réclamer que cette ONU joue son rôle, en fait. Une poussée des peuples, des chefs d'État, des ONG. Il y a beaucoup d'ONG, d'associations qui sont représentées à l'ONU, qui poussent au sein de l'ONU pour faire des réclamations, déposer des pétitions. C'est le rôle des peuples, des chefs d'État, des représentants, des diplomates, des démocraties, justement. Comme vous disiez, il y a seulement peut-être un tiers à la moitié des États dans le monde seulement qui sont des démocraties. C'est à eux de pousser à l'ONU pour se faire entendre et rétablir ce multilatéralisme.
Dominique Moisy.
Je pense, d'abord, cet extrait de la première ministre néo-zélandaise était vraiment excellent. Et c'est une femme d'État. Et elle manque. Maintenant, je pense au livre de Raymond Aron, « Paix et guerre entre les nations ». Dans son chapitre 4, « Praxéologie », il dédie quelques pages sur la paix par l'Empire ou la paix par la loi. La paix par l'Empire, dans son esprit, c'est plutôt la paix romaine. La paix par la loi, c'est l'idéal kantien. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on n'a ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de principe d'ordre qui apparaissent comme légitimes et qui puissent s'imposer. Et on le voit dans toutes les crises qui se manifestent. À un moment donné, et j'ai peur que ce moment n'arrive que lorsqu'il y aura eu vraiment une crise majeure, catastrophique, qui forcera les gens à reconnaître l'essentiel, c'est-à-dire que la paix par la loi manque terriblement. Et donc, l'ONU est terriblement frustrant. Ne désinventons pas l'ONU, car ce qui existe aujourd'hui est là pour redémarrer à un moment donné.
Donc, je vais vous poser la question à tous les deux. L'ONU n'était pas finalement qu'une utopie?
Non, je crois qu'à la marge. Le problème, c'est que ça a été de plus en plus à la marge, au fil des décennies qui se sont écoulées depuis 1945, il était important que l'ONU existe. Mais d'une certaine manière, les grandes puissances se sont comportées à l'égard de l'ONU comme Staline se comportait à l'égard du Vatican. L'ONU, combien de divisions? Le Vatican, combien de divisions? Et en réalité, cette vision cynique, obscène, purement, eh bien, au fil des années, a affaibli, neutralisé, marginalisé les Nations Unies. Au point qu'aujourd'hui, nous sommes au bord du gouffre et qu'il est important que nous n'y sombrions pas.
Chloé Morel, sur ce sujet?
Eh bien, depuis 80 ans que l'ONU existe, il y a eu beaucoup d'actions utiles qu'elle a faites, malgré ses limites, ses défauts. Il y a eu beaucoup d'aide humanitaire, de l'aide au développement.
Développer tous les exemples.
Les exemples.
La justice internationale.
Oui,
par
la justice internationale, l'aide humanitaire, les droits humains, des grandes déclarations, conventions sur les droits humains, l'égalité homme-femme, etc. Les opérations de maintien de la paix, puisqu'il y en a eu 71 depuis la création de l'ONU, il y en a qui ont été utiles.
Comme on a cité comme le Timor tout
à l'heure. Le Timor oriental, le Cambodge, la République centrafricaine, voilà, donc il y en a plusieurs, RDC aussi, en RDC. Et puis le rôle de forum de dialogue de l'ONU, comme on disait tout à l'heure, à l'Assemblée Générale, à New York, un forum pour désamorcer des conflits en cours, pour que des diplomates se parlent, se rencontrent, et faire rencontrer les pays du Nord avec les pays du Sud, faire ce dialogue-là qui est important. Voilà, l'ONU a aussi accompagné la décolonisation. Elle a fait entrer des États du Sud dans son instance pour leur permettre de dialoguer avec les pays du Nord. Et elle a toute une myriade d'agences spécialisées. Il y en a 16, comme l'UNESCO pour le patrimoine, la culture, l'OIT pour les droits des travailleurs, très important, l'OMS pour la santé au quotidien ou dans les crises sanitaires, et d'autres encore, comme l'Organisation météorologique mondiale qui s'occupe du climat. Et il y a eu beaucoup de conventions onusiennes, comme comme par exemple celle de Montréal en 87 qui a agi pour la couche d'ozone qui a été depuis comblée. À l'époque, on parlait beaucoup du trou dans la couche d'ozone. Donc, il y a beaucoup de conventions et des choses importantes comme des forums sur les fonds marins, sur la protection des grands fonds marins. Donc, pour la planète, pour les droits humains, pour l'environnement et pour la diplomatie, l'ONU fait beaucoup et vraiment, elle est indispensable. Je suis d'accord avec Dominique Moisy. Le monde serait vraiment pire s'il n'y avait pas l'ONU.
Oui, mais quand même, je vais encore un petit peu vous provoquer. Dominique Moisy, vous dites qu'on est au bord du gouffre. Est-ce que ça veut dire qu'on est, comme à l'époque de la veille de la mort de la SDN, est-ce qu'on ne peut pas se dire que l'ONU aujourd'hui est dépassée et qu'il faudrait en fait la remplacer par une nouvelle ONU, comme on avait remplacé la SDN par l'ONU?
Oui, mais le drame...
Ça ne marche pas comme ça?
Le drame, c'est que les hommes ne deviennent raisonnables que lorsqu'ils ont épuisé toutes les autres solutions. C'est la formule de Churchill. Et j'ai peur que ce processus ne se répète. C'est-à-dire que la situation nous imposerait, avant la catastrophe, de réformer, réinventer la paix par la loi. J'ai peur que ça ne vienne qu'après la catastrophe.
Oui, c'est souvent dans les grandes catastrophes que sont fondées des nouvelles choses, qu'on fonde les bases de nouvelles organisations, comme au cœur de la Seconde Guerre mondiale, en 1942, a été pensée l'ONU par Roosevelt et d'autres leaders alliés. Donc peut-être qu'à la situation actuelle, qui est vraiment catastrophique, effectivement, c'est là qu'on va penser une nouvelle manière de faire le multilatéralisme plus efficace, peut-être plus démocratique aussi.
Est-ce qu'on dit souvent que l'Europe, en fait, ne se réveille que quand elle est face à un danger mortel, quand le danger devient mortel? C'est finalement la même chose pour toutes les grandes organisations collectives, et c'est sans doute la même chose pour l'ONU, Dominique Moisy?
Oui, mais je pense que c'est plus facile pour l'Europe, car il y a une communauté de valeurs, une communauté civilisationnelle. Le problème de l'ONU, c'est qu'elle représente un monde devenu toujours plus différent. Donc c'est plus compliqué pour l'ONU que ça ne l'est pour l'Union européenne.
Et donc c'est pour ça que l'ONU est si difficile à réformer. L'heure a sonné de la fin de cet épisode consacré à l'ONU. Merci beaucoup Chloé Morel. Merci beaucoup Dominique Moisy. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec à la technique aujourd'hui Jérémy Kaufmann, attaché de production Théa Corler. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.